France Culture.
Sciences Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Après 12 ans sans travaux de fouilles archéologiques, le site gallo-romain de Saint-Romain-en-Gall dans l'Isère a de nouveau été fouillé à partir de 2024. Au mois d'août 2025, ce site qui constitue un quartier riche en vestiges de la colonie romaine de Vienna a révélé un mausolée particulièrement bien conservé datant du 1er siècle de notre ère. En quoi ce mausolée qui a pris pour modèle celui d'Auguste, le premier empereur romain, nous renseigne-t-il sur l'importance et l'opulence de cette colonie déjà célèbre, notamment pour ses ateliers de mosaïque? Que reste-t-il à mettre au jour de ce mausolée, encore partiellement enfoui, et quels travaux post-fouilles sont en cours de réalisation? Voilà quelques-unes des questions que nous sommes allés poser sur ce très beau site à Giulia Ciucci et Sabine Grothenbrill dans le grand vent qui soufflait ce jour-là au bord du Rhône. Bonjour Giulia Ciucci.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, responsable du site archéologique de Saint-Romain-en-Gall. Mille merci de nous accueillir aujourd'hui sur ce site qui se trouve sur la rive droite du Rhône, en face de la ville de Vienne, à une trentaine de kilomètres de Lyon. On va parler bien sûr aujourd'hui de la découverte importante qui a été réalisée ici cet été. Mais avant ça, j'aimerais que vous nous parliez un peu de l'histoire de ce site gallo-romain de Saint-Romain-en-Gall. Le site a été découvert en 1968. À quelle fréquence il a été fouillé et quelles zones ont commencé à être fouillées en particulier en 1968?
Eh bien, merci d'être venu déjà et de vous intéresser à la recherche archéologique qu'on a relancée il n'y a pas très longtemps sur le site archéologique qui a, comme vous le dites, une histoire qui est assez longue maintenant. Donc, a été découvert en 1968 à l'occasion d'un projet de construction d'un lycée qui est toujours construit mais un peu plus à l'ouest. Et une fois le projet déposé, les archéologues avaient alerté de l'importance de cette rive droite au vu de la quantité de mosaïques qui étaient retrouvées au cours du temps, depuis l'Antiquité, depuis la fin de l'Antiquité jusqu'en nos jours. Et on a ici aussi des vestiges en élévation, donc c'est les vestiges du palais du miroir qui correspondent à un complexe thermal, qui sont des vestiges donc antiques en élévation et qui alertaient justement sur la richesse archéologique de la rive droite. Et à l'occasion de ces projets de construction, ils ont voulu faire ce qu'on appelle des sondages de vérification, donc ce qu'aujourd'hui on appellerait de l'archéologie préventive, qui à une époque s'appelait l'archéologie de sauvetage. Donc les mots ont été bien choisis effectivement pour décrire ces opérations. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'effectivement, en rive droite, il y a un quartier très différencié, avec des riches domus, donc des riches maisons, mais aussi des complexes commerciaux, des complexes thermaux, et qui font partie donc, de la colonie romaine de Vienna, qui s'installe plutôt sur la rive gauche.
Le vent souffle un peu fort aujourd'hui, on va essayer de se trouver peut-être un petit abri pour que ça perturbe moins le son, mais on va profiter de cette déambulation pour continuer à parler de ce site. Vous le disiez, vous rappeliez le lien de Saint-Romain-en-Gall à la colonie de Vienna. Quelle histoire on peut finalement raconter de Vienna, de l'importance de ce site? Et bon, alors je suis chauvin parce que je suis lyonnais, mais on n'est pas très loin de Lugdunum. Est-ce qu'il y a un lien entre Vienna et Lugdunum ou pas du tout?
Alors Vienna, elle est, c'est une colonie romaine qu'on connaît à travers les sources littéraires, mais aussi bien par la richesse archéologique qu'on peut encore aujourd'hui voir dans le tissu urbain de la ville de Vienne. Donc on a un temple antique, on a un théâtre, un odéon, la spina d'un cirque, donc des éléments monumentaux qui nous rappelle l'importance de cette ville à l'époque romaine. Et Lugdunum, je dirais, elle devient importante plus tard que Vienne. Donc ici, on est encore dans la Narbonnaise, la première province fondée par les Romains. Et Lugdunum n'est pas dans la Narbonnaise. Donc, et la puissance et la richesse de Vienne, surtout au 1er siècle après Jésus-Christ, est quand même assez importante, justement, parce qu'on est donc sous le Rhône, un point stratégique pour la décharge et la recharge de marchandises et faire le lien entre la Méditerranée et le Nord, les pays du Nord. Et donc, vous comprenez que la position géographique de Vienna est stratégique dans ce sens-là. Cette richesse et cette importance, on la voit aussi au travers des mosaïques. Donc, on parle d'une école viennoise de la mosaïque. Et bien évidemment, ces ateliers de mosaïstes sont en relation directe avec la richesse parce qu'il y avait une demande, des commanditaires assez riches qui demandaient des mosaïques pour orner leur maison. Et on voit cela chaque fois qu'on fait des travaux aussi, tantôt sur la rive droite que sur la rive gauche, d'archéologie préventive. On retrouve tout de suite l'importance et la richesse de cette colonie.
Cette colonie de Vienne, elle est rattachée à ce site sur lequel on est aujourd'hui, Saint-Romain-en-Galles, qui est un quartier de cette colonie. Donc Vienne est de l'autre côté du Rhône. Quel type de découvertes ont été réalisées sur ce site de Saint-Romain-en-Galles? Quels sont les principaux points majeurs de découvertes qu'on a réalisés ici depuis les années 60?
Et bien donc, tout de suite, à partir de la découverte du site, on s'est rendu compte qu'il y avait des demeures, donc des domus, des maisons très vastes. Pour vous dire, la plus grande qu'on connaît en surface, elle fait 2300 m². La plus petite, pour l'instant, à notre connaissance, elle en fait 1000. Donc vous voyez que si vous voulez comparer nos logements, même les plus luxueux aujourd'hui, voilà, on voit déjà à travers la surface de ces habitations, et on a eu la chance donc aussi d'y retrouver des mosaïques, des peintures murales, qui montre bien cette richesse. Mais à côté, on a aussi un marché, des foulons, donc des ateliers de foulons, les foulonicas. Et donc, on voit aussi toute une vie artisanale, commerciale, qui est rattachée à un autre style de vie, à une autre classe sociale également. Et donc, on peut dire qu'on a longtemps pensé que le quartier de la rive droite, à l'époque antique, était un quartier résidentiel, parce que, bien évidemment, les grands domus avaient attiré plutôt l'attention des archéologues. Mais à fur et à mesure de l'avancement des fouilles, donc notamment dans les années 80, avec l'équipe archéologique départementale, on s'est aperçu qu'effectivement, ce quartier était composé, encore une fois, d'installations commerciales, des thermes aussi, qui sont des thermes publics, et donc qui peuvent accueillir à la fois les classes sociales moyennes et plus élevées, étant donné que les domus, donc les maisons, ont été aussi équipées des bains privés, souvent. Et donc, on voit aussi qu'il y a une abondance des lots. Donc, il y avait l'eau qui circulait de façon assez importante sous le quartier pour alimenter des fontaines, pour alimenter, bien évidemment, les latrines ou les thermes, mais également pour alimenter des fontaines d'agrément dans les jardins, qui sont des jardins vraiment à la méditerranéenne. Donc ici, on a une planimétrie des maisons aussi, qui rappelle la planimétrie italique avec des grandes maisons à péristyle, donc avec une courte ouverte et avec des colonnes, et qui était souvent voilà, adornée par une fontaine et des jeux d'eau.
Alors ce site, il a été fouillé régulièrement de 1968 à 2012, puis il y a eu une grande pause entre 2012 et 2024. À partir de ces nouvelles campagnes de fouilles, quels ont été les espaces qui ont été fouillés en priorité sur ce site qui est assez vaste? Et pourquoi avoir choisi d'aller fouiller à cet endroit-là?
Alors effectivement, il y a eu un grand changement en 2018 avec le changement des directions, et donc la nouvelle direction a souhaité tout de suite relancer la recherche archéologique qui est fondamentale sur un site comme celui-ci. On est quand même une grande réserve archéologique en France. Et effectivement, on a ciblé tout de suite des zones qui pouvaient être des zones stratégiques, à la fois par la valorisation du site archéologique et pour l'avancement de la recherche scientifique sur le site. Donc en 2024, on a relancé une toute petite opération au nord du site, en limite de propriété, parce qu'on avait un talus de terre qui était conservé, et ça nous permettait en fait de voir les niveaux d'abandon et de réoccupation du site qui ont été un peu fouillés rapidement au moment du dégagement du site archéologique en 68. Il faut dire aussi que les techniques de fouilles archéologiques n'en sont pas les mêmes en 1968 et aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est une science qui évolue assez rapidement. Et donc là, on avait pu observer tous cette vie post-abandon du quartier, post-abandon antique. Donc le quartier a abandonné à la fin du 3e siècle après Jésus-Christ. Et on a pu remarquer des réoccupations au 4e siècle. Ensuite, cet été, on a ciblé une autre zone, donc une zone ouest qui n'a jamais été fouillée jusqu'à présent, parce qu'on avait des indices. Donc on savait qu'une belle mosaïque, qui est appelée aujourd'hui la mosaïque des saisons, a été retrouvée à Saint-Romain-en-Galles en 1891. Et selon les hypothèses de Laurence Brissot, donc une collègue archéologue qui travaille également au musée, cette mosaïque aurait pu être retrouvée sur cette zone ouest du site archéologique, juste à côté de la maison des Diocéens, donc qui est la maison la plus grande qu'on connaît aujourd'hui. Et donc nous, on a commencé les fouilles archéologiques dans ce secteur avec l'objectif de retrouver le contexte archéologique de cette mosaïque. Donc cette opération a été dirigée par moi-même et par Corinne Rousse de l'Université d'Aix-Marseille, Université du Centre Camille Julien. Et nous avons appelé effectivement ces recherches domus, donc maison, parce qu'on s'était fixé comme objectif scientifique de retrouver les décors de ces grandes demeures pour finalement tomber sur autre chose.
Autre chose, bah là vous avez bien teasé, comme on dit en anglais, cette découverte. On va se diriger à présent vers cette magnifique découverte que vous avez réalisée cet été et qui vous a finalement un petit peu, qui a un peu démenti cet intitulé de Domus. Et on va voir pourquoi dans un instant. On va se diriger à présent vers ce site très beau.
On va passer par l'autre côté, comme ça, à l'entrée. Donc on a sécurisé, parce que bien évidemment, vous verrez, c'est assez dangereux pour le public. Donc
pour l'instant,
on ne peut pas faire des visites. Les visiteurs ne peuvent pas se balader de façon autonome sur la fouille archéologique, pour des raisons de sécurité, bien évidemment. Mais le musée organise assez fréquemment des visites guidées avec des médiateurs culturels. Et en particulier, donc Stéphane Riocher, qui est un médiateur culturel, mais aussi archéologue, et donc qui nous a accompagnés pendant toute l'activité de fouilles cet été. Donc on a fouillé du 15 juillet au 29 août. Et tout le long du chantier, on faisait des visites guidées sous les fouilles. Mmh. Visites guidées qui ont eu... Il est très tendu. Hop. Mmh. Qui a eu quand même un succès assez... remarquable, elles étaient tout le temps en plein, donc on a vu que les locaux et aussi les touristes qui arrivent juste par hasard ici sont très intéressés par le chantier archéologique. Parce qu'ils se disent tout le temps, ça va être là quand je suis là que ils vont peut-être trouver quelque chose.
Bon, alors, là on est vraiment face à quelque chose de très imposant, déjà en termes de dimension. Est-ce que vous pourriez me décrire ce qu'on a sous les yeux, en profondeur, mais quand même déjà bien, assez bien excavé? On a des structures assez étonnantes. Expliquez-moi ce qu'on voit.
Oui, alors déjà, pour commencer, effectivement, toutes les structures que vous voyez devant vous, c'est des structures romaines non restaurées. Donc je vous laisse voir à quel point elles sont bien conservées et à quel point elles sont, les maçonneries sont monumentales. Donc on a des gros murs très épais, conservé pour l'instant sur presque 3 mètres d'hauteur, donc c'est des élévations assez conséquentes. Et donc on est face à une architecture circulaire caractérisée par des fondations en élévation. Donc ce type de fondation, on le connaît très bien à l'époque romaine, c'est des fondations qui se font dans des contextes géomorphologiques assez particuliers, comme ici par exemple, on a la proximité du Rhône et donc une nappe phréatique qui est très haute. On n'a pas la possibilité de faire des fondations en profondeur, donc on va assurer la stabilité de l'édifice à travers ces élévations qui sont comblées par un remblai de terre qui va assurer la stabilité de la construction. Donc il s'agit, comme je vous disais, d'une architecture circulaire, c'est une grande tour si on veut, qui fait pour l'instant 15 mètres de diamètre, mais nous ne connaissons pas pour l'instant le diamètre extérieur de cette structure. Et à l'intérieur de ce cercle, nous avons une pièce rectangulaire à laquelle on accède à travers un couloir. Et il s'agit de la chambre funéraire. Donc on est face à un édifice funéraire de l'époque romaine qu'on appelle mausolée. Donc c'est un tombeau à tumulus qui rappelle les architectures hellénistiques et qui est très employé par l'aristocratie romaine à partir de la fin de la République. Donc, à partir de la moitié du deuxième siècle avant Jésus-Christ en Italie et ensuite aussi en Gaule.
Est-ce que c'est surprenant de découvrir un édifice, un mausolée de cette taille-là à cet endroit du site? Est-ce que c'était une réelle surprise?
Oui, alors là, d'autant plus que, comme je vous disais, on s'attendait à trouver une maison, donc une architecture privée. Des premiers coups de pelle, vous voyez, les vestiges sont quand même assez bien conservés. Enfin, il n'y a pas beaucoup de remblais sous les vestiges. On s'est rendu compte qu'on était face à une architecture monumentale qui ne pouvait pas coller avec une architecture d'habitation, même si les maisons sont très riches. Ce qui nous posait problème, c'est que ce type d'édifice, on le trouve à l'extérieur de la ville. Donc les Romains enterrent leurs morts à l'extérieur du centre-ville. Pas à côté, à proximité des habitations. Et là, on est très proche donc, de la maison des dieux océans. Et ça nous posait un problème majeur d'organisation de l'urbanisme à l'époque romaine. À fur et à mesure de la fouille, on a compris que ce bâtiment vient bien avant l'installation des maisons et du quartier, l'organisation du quartier qui vient plus tard dans le temps. Donc ici, on serait entre 0 et 50 après Jésus-Christ, alors que le dernier état de la maison des dieux océans, qui est juste à côté...
Juste à côté de nous, là, on a vraiment le pavement magnifique.
à l'ouest, les derniers états datent de 180 après Jésus-Christ. Or, ce monument, pendant toute l'époque antique, donc à partir pendant le 1er, le 2e et le 3e siècle après Jésus-Christ, a été conservé. C'est-à-dire que lors de la fouille, nous n'avons pas trouvé des structures successives, donc du 2e et 3e siècle, qui s'installent sur ces architectures. Cela veut dire que ce monument était très important et respecté, même à un moment où le quartier se développe, les habitations arrivent à proximité de ce monument et s'organisent autour de ce monument en le respectant et en le laissant dans son état.
Ce qui m'amène à une double question. Déjà la question que tout le monde doit vous poser, mais alors si on respecte tant ce mausolée et qu'on le respecte dans le temps et qu'il fait une telle dimension, c'est qui ? Qui est, non pas enterré ici, puisque voilà, c'est pas une sépulture, il n'y a pas une inhumation, il y a une crémation. À qui appartenaient ces cendres ? Et ça, vous n'avez pas encore la réponse.
Non, nous n'avons pas encore la réponse. Donc effectivement, nous avons trouvé une couche cendreuse qui a été analysée par Alexis Alatar, qui est anthropologue à l'INRAP. Et effectivement, on va continuer la fouille, parce qu'on a encore une partie de cette couche sur place. Mais les données scientifiques que nous possédons aujourd'hui ne nous permettent pas de répondre à cette question. Il est évident que ce type d'architecture est utilisé par quelqu'un qui veut marquer le territoire par une architecture imposante, parlante, et donc qui veut prouver son importance au sein de la société romaine. Donc il peut s'agir d'un aristocrate, mais en Gaule on connaît aussi des affranchis, donc des esclaves qui arrivent à s'affranchir justement, qui deviennent riches et qui témoignent à travers ce type d'architecture leur avancement des carrières dans leur vie, celui de leur famille. On connaît par exemple un modèle assez proche d'une autre à Orange, beaucoup moins conservé. Et là, les archéologues ont eu la chance de trouver aussi l'inscription qui permet d'identifier le propriétaire de ce type d'architecture. Nous, aujourd'hui, on vient juste de commencer la fouille et on espère que les prochaines campagnes puissent nous aider à définir, à identifier le propriétaire de ce mausolée.
Ce qui est certain, c'est qu'il ne se prenait pas pour n'importe qui, puisque ce mausolée ressemble comme deux gouttes d'eau à un autre mausolée qui, lui, est dans le Saint des Saints, quand on parle d'archéologie, à Rome. Quel mausolée a été le modèle de ce mausolée ici à Saint-Romain-en-Gard ?
Alors, effectivement, ici, on a une petite copie du mausolée d'Auguste à Rome, donc Auguste, le premier empereur de Rome. On a assez de similitudes entre les deux structures, à toute proportion gardée, bien évidemment. Alors, le mausolée d'Auguste, il fait 90 mètres de diamètre. Ici, on est pour l'instant à 15. Mais il partage la même planimétrie, donc une forme circulaire, la même technique de construction, puisqu'on retrouve ses fondations en élévation. Et surtout, le même emplacement au niveau du contexte géographique, parce que le mausolée d'Auguste, il est sous le Tibre, et ici, on est immédiatement sous le Rhône. Et on a estimé pour l'instant des premières études de l'archéologie du bâti que ce monument pouvait faire 6 mètres d'hauteur. Et donc vous imaginez, là où nous sommes aujourd'hui, il y avait quand même un axe préférentiel avec le théâtre antique de Vienne et le mont Pipé qui est juste en face. Le Rhône du sud, si on l'empruntait du sud, du nord. Et donc c'est quelque chose qui marque le paysage antique, à l'instar du mausolée d'Auguste à Rome, bien
évidemment. Vous voyez ce mausolée d'assez
loin. En arrivant à Vienne, en partant de Vienne, en allant sur le mont Pipé, donc c'était quelque chose qui marquait vraiment le paysage.
On évoquait tout à l'heure le fait que la personne qui occupait ce mausolée, ou en tout cas ses cendres, voilà, il y avait une crémation. Est-ce qu'on a une idée du déroulé type de ce genre de cérémonie ? Ce sont généralement des sépultures qui sont conçues avant même le décès de la personne qui va l'occuper. Qu'est-ce qu'on sait de ce genre de cérémonie-là ?
Alors, bien évidemment, au vu de la monumentalité des structures, il faut penser que ce type d'architecture est réalisé de son vivant, du propriétaire. Et c'est pour ça que là, on fait appel à des anthropologues qui vont recréer un peu l'archéologie du geste funéraire. Donc, on leur laisse la responsabilité de fouiller ce qui reste des couches cendreuses pour pouvoir nous clarifier quels sont effectivement tous les rituels funéraires qui accompagnent ce type de crémation. Donc, il est évident que la crémation, elle a été réalisée à l'extérieur du monument, donc dans un contexte rituel défini que les anthropologues nous aideront à bien reconnaître. Et ensuite, donc, les cendres ont été ramenées à l'intérieur de la chambre funéraire qui est pour la suite fermée et voilà, on n'y rentre plus.
La totalité du bâtiment n'a pas été encore dévoilée. Quelles sont les campagnes de fouilles à venir en 2026-2027 pour vraiment qu'on ait tout le bâtiment, autant que possible, à ciel ouvert.
Oui, alors donc là, l'objectif de la campagne de l'année prochaine, c'est effectivement la fouille de la chambre funéraire et ensuite le dégagement complet de la structure, parce que nous n'avons pas, sur la partie est, on n'a pas la structure complètement dégagée, pour comprendre déjà quelles sont ses dimensions réelles. Et ensuite, en 2027, on voudrait bien comprendre le contexte dans lequel cette architecture s'en sert, ou plutôt comment le quartier s'organise au fil du temps autour de cette architecture, donc élargir la fouille justement vers la maison des Dieux-Océans et vers le nord du site, et pour viser une publication des données scientifiques au mieux en 2028. Ça peut-être
On va vous le souhaiter en tout cas. Et puis en fait, il y a aussi tout un travail, bien sûr, qu'on qualifie de travail de post-fouille, qui est très très important aussi pour déterminer, par exemple, les méthodes employées pour construire ce type de bâtiment, les types d'enduits peints, dont on va parler dans un instant. On va aller se mettre un peu au chaud, à l'abri du vent, et on va aller rencontrer Sabine Grothombril, qui elle travaille justement sur les enduits peints qui ont été retrouvés sur ce mausolée. On vient d'arriver dans un endroit assez calme qui ressemble à un atelier propre avec beaucoup de choses autour de nous. Et vous, Sabine Grothombril, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéologue, directrice du Centre d'études des peintures murales romaines à Soissons. En quoi consiste votre métier concrètement ?
Alors nous, on va faire un travail qu'on appelle de post-fouille, c'est-à-dire qu'on va étudier les peintures murales que les archéologues vont trouver dans le cadre de leur fouille. C'est-à-dire que ce sont des gravats, ce sont des murs qui se sont effondrés, les décors sont trouvés enremblés dans les vestiges archéologiques, et on va les observer pour essayer de les faire parler et de découvrir quels étaient les décors qui ornaient les maisons du contexte.
Alors là, on a à côté de nous plusieurs caisses, justement, avec ces gravats de différentes couleurs. On a des gravats qui ont des couleurs plutôt de jade, un peu vert jade, des couleurs plutôt ocre, des couleurs noires. Voilà, qu'est-ce qu'on peut deviner à partir de cette simple observation-là ?
Bravo, vous avez déjà vu l'essentiel. Effectivement, on voit déjà au premier regard qu'on a un ensemble hétérogène. C'est-à-dire que ces peintures ont fait l'objet d'une démolition, ont été mises en tas sur le côté, et ensuite, quand on a voulu combler des fosses, on va les utiliser comme du gravat, comme du caillou, pour faire des remblais stables et reconstruire derrière. Cependant, nous, on va les observer et essayer de les regrouper par décor. Et donc, on peut observer déjà des pigments de qualité. Ce vert dont vous parliez, qui est ce qu'on appelle un vert céladon, parce qu'il est azuré. C'est un mélange de terre verte qui est de la céladonite avec du bleu égyptien. On retrouve sur d'autres fragments du bleu égyptien qui, lui, est utilisé pur et qui a du coup cette tonalité assez lumineuse sur les décors. Et ensuite, pas mal de fragments qui, eux, sont blancs, unis, d'autres qui sont noirs ou apparaissent des petits motifs. Et donc, c'est un très, très beau noir qui est ici peint, même s'ils ont un aspect parfois un petit peu altéré par le séjour sous terre. Mais on a quelque chose d'assez intéressant parce que ces éléments, cette qualité picturale et toutes les observations qu'on peut faire vont aboutir à des propositions de datation.
Des propositions de datation. Vous le disiez donc aussi tout à l'heure que ce sont donc des gravats de remblais. C'est pas du tout des éléments d'une fresque qui aurait orné les murs de ce mausolée. Mais tout de même, quand on a le luxe de se servir de gravats peints, on se dit que ça dit quelque chose quand même de l'importance du lieu et d'une certaine façon de l'opulence des gens qui l'occupaient.
Oui, ces fragments disent le caractère résidentiel de ce secteur de Saint-Romain-en-Galles. On est aussi dans, ça témoigne de l'urbanisme, c'est-à-dire du mouvement, des destructions de maisons, de reconstructions, de toute la vie dans l'Antiquité qui n'était pas statique, mais qui était en mouvement à travers les siècles.
Beaucoup de recyclage déjà à l'époque.
Alors là, ce sont les rois. Les Romains sont les rois du recyclage et les enduits peints en font partie parce que c'est un matériau durable, comme vous voyez, malgré la fragmentation, on a quelque chose de pérenne. Les fragments sont solides, durs, et quand je vous parlais de cailloux, entre guillemets, tout à l'heure, c'est bien pour ça que les Romains les utilisaient, parce que ce sont des éléments, même si on peut parler de fresques, et quand on voit Pompéi, ça semble fragile, délicat, ces fresques sont faites avec une technique spécifique de mortier de chaux qui, lui, est durable dans le temps et est en parfait état de conservation malgré 2000 ans sous terre.
2000 ans plus tard, donc on a ces fragments-là qui revoient le jour. Concernant le mausolée dont on discutait tout à l'heure avec Giulia Ciucci dehors, est-ce que vous allez conduire des travaux spécifiques sur cet édifice-là? Et si oui, lesquels?
Alors, pour l'instant, le mausolée n'a pas donné d'indices de décor peint, que ce soit encore en place sur les murs ou dans les zones fouillées. Mais la fouille va se poursuivre l'année prochaine et on ne perd pas espoir. Mais on va dire que ce n'est pas l'endroit où on va s'attendre à avoir beaucoup de choses, mais on peut très bien avoir de l'enduit extérieur ou de l'enduit dans la chambre funéraire. Mais ça, ce serait vraiment extraordinaire.
Ce serait extraordinaire. Ce n'est pas des choses qui se pratiquent trop dans les mausolées ?
En Gaule, c'est un peu. On n'a pas beaucoup de références, évidemment. Si on va à Rome, voilà, on a énormément de tombes qui sont peintes. Pour la Gaule, on a peu de références, donc effectivement, ce serait remarquable.
On va croiser les doigts, en tout cas, pour que ce genre de choses arrive. Giulia Ciucci, je vais lui donner le mot de la fin de cet entretien archéologique ici à Saint-Romain-en-Galles. On a beaucoup de chance, en fait, finalement, de pouvoir être dans un site où il y a à la fois un musée, un site de fouilles qui est particulièrement riche, on l'a vu, et des espaces de recherche directement accolés, comme ceux où travaille actuellement Sabine Grothembril.
Oui, et on a d'autant plus la chance d'avoir aussi des partenaires de travail qui forment une équipe multidisciplinaire qui est un peu répandue dans toute la France. Donc c'est vrai qu'on rassemble les ressources ici parce qu'on a des locaux et des espaces qui s'y prêtent bien pour la recherche. Mais il est vrai aussi qu'on peut compter vraiment sur une collaboration hétérogène aussi, à la star des enduits peints, parce qu'on travaille aussi avec des architectes du patrimoine, des restaurateurs pierres, des spécialistes des enduits peints, des céramologues, donc on a des pétro-archéologues, donc des spécialistes des mortiers, et donc tous ces différentes figures professionnelles sont indispensables pour la compréhension à 360 degrés d'un contexte archéologique et de sa vie dans le temps.
On vous souhaite évidemment bien sûr le meilleur dans les travaux de fouilles que vous allez conduire l'année prochaine et l'année qui suit. Et on espère pouvoir revenir voir ce mausolée complet et pourquoi pas avec des magnifiques fresques peintes. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir. Merci.
Notre émission touche à son terme. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansigny à la réalisation, Olivier Bétard. Merci à Nicolas Bonnet aujourd'hui à la technique. Et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour une nouvelle exploration du passé au présent.